je me placerai ce matin du point de vue de l'institution qui essaye d'organiser la formation en disant de quoi on a besoin pour que les enseignants fassent leur métier. On travaille dans le premier degré, dans le second degré, dans l'enseignement professionnel, dans l'AIS, et donc je ne parlerai donc ce matin que du premier degré. Je ne parlerai pas de formation initiale, puisque
on, va la commande,
on nous avait demandé d'articuler ce qu'il y avait des différences entre la formation initiale et la formation continue. Donc je vais essayer de me placer de ce point de vue-là, en sachant que on va partir de cette idée que pour nous, en tout cas, donc tout ce que je vais vous dire, c'est l'expérience singulière d'un fonctionnement à l'intérieur d'un service, d'un rectorat. Donc pardonnez les raccourcis, oui, oui, oui. Et je ne le répéterai pas. Donc je ne modélise pas ici ce qu'il faudrait faire et je pense que vous allez avoir l'occasion de vous en apercevoir. On part de l'idée que quand les titulaires viennent en FC, ils viennent en FC pour tenter de gérer les difficultés à faire classe. Et donc ce qu'on va essayer de présenter ici, c'est qu'est-ce qu'un rectorat, une institution peut essayer d'organiser, de penser en prenant en compte ce point de vue que la formation... Elle n'est pas directement du côté du patron, ni du côté de l'ouvrier. Je prends là les références dans les points de vue de la psychologie ergonomique développée par Claude et un certain nombre de ses fils spirituels dont Sylvie est une, nourrit aussi un certain nombre de ses travaux de là. Quand je dis du côté du patron, c'est-à-dire elle n'est pas exclusivement du côté de la prescription, ni institutionnelle, ni didactique. Elle n'est pas exclusivement du côté de l'ouvrier, c'est-à-dire qu'elle doit prendre en compte les préoccupations de l'ouvrier, de l'enseignant, sans pour autant y coller. Donc je vais oser une seconde grossièreté. Je vais partir du point de vue que le formateur doit avoir des objectifs précis, mais ça n'implique pas forcément qu'il ait besoin d'être dans une situation où on va lui demander de prendre position par rapport à des prescriptions didactiques, par rapport à des conduites didactiques. C'est un postulat que j'ose. Je l'assume comme étant éventuellement une grossièreté.
Non, pas du tout.
Et tous les conseillers pédagogiques qui sont ici savent la difficulté que peut entraîner le fait, quand on est face à des enseignants, de présenter telle ou telle manière de faire, tel ou tel contenu didactique comme étant une manière pertinente de faire et de se retrouver face à une salle qui va être braquée dans des conduites d'opposition et de résistance. Et je prétends, y compris pour avoir travaillé avec un certain nombre de conseillers pédagogiques en formation de conseillers pédagogiques, que ces choses-là sont légitimes. Par rapport à ça, donc, je vais essayer de vous présenter comment nous, on s'organise concrètement, pour répondre à la commande d'Anne-Marie, non pas seulement de vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais qu'est-ce qu'on essaye de faire,
qu'est-ce que vous faites ?
Très humblement. Donc, on va partir du point de vue que dans un rectorat, on a besoin de faire un travail stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire stratégique ? Ça veut dire qu'on travaille avec des contraintes, notamment des contraintes qui sont qu'on travaille avec des pilotes, qui sont les inspecteurs d'académie, qui sont les IUFM, qui ont chacun un point de vue sur le monde, ou pas, et qu'à l'intérieur, par exemple, d'une inspection académique, savoir quelles sont les priorités de formation, ce n'est pas forcément un travail qui est fait. Réunir un conseil d'IEN pour se dire quelles sont les préoccupations professionnelles des enseignants ou par rapport aux priorités de formation qui sont énoncées dans les priorités ministérielles, qu'est-ce que en termes de difficulté à agir on peut identifier nous qui sommes inspecteurs, ce travail collectif n'est pas forcément fait. Et donc quand on discute avec les IA, et je répète que ici l'institution c'est au niveau académique on doit chercher une cohérence, c'est les textes, c'est la LOLF, c'est les budgets, etc. Et donc, on est obligé de travailler en négociation avec les espaces que sont les espaces départementaux pour le premier degré, ou avec les IPER pour le second degré, et on doit travailler évidemment avec les IUFM qui sont, on va dire, l'opérateur privilégié, mais pas forcément unique, des demandes qui sont exprimées dans le cahier des charges, qu'on a bien du mal à fabriquer. Qu'est-ce qui est l'objectif prioritaire de formation ? Voilà. Donc on essaye de mener ce travail-là. Budgétaire. Pourquoi budgétaire ? Parce qu'on a des volumes contraints. Pas forcément en baisse. J'y reviendrai s'il y a des questions là-dessus. Pas forcément en baisse, j'insiste. Par contre, beaucoup plus contraints. C'est-à-dire, dans mon académie, 54% du volume de formation est contraint par la formation T1, la formation de directeur, les KPSH, les KFIPEF, j'oublie, je ne sais pas quoi. Donc, il faut faire avec ça. Et puis, le deuxième volume de contraintes, c'est quelle est la stratégie qu'a l'inspecteur d'académie par rapport au volume de BFC, etc. Tout ça, vous connaissez par cœur. C'est les deux contraintes. Donc nous, effectivement, dans les modèles de formation qu'on va poser, on va se poser des questions aussi idiotes que est-ce qu'il vaut mieux faire une journée pour 10 groupes de 20 stagiaires ou 5 fois 2 jours pour un groupe de 20 ? Et le choix qu'on fait, je vais y revenir, c'est effectivement que on fasse de l'accompagnement de personnel, c'est-à-dire on va travailler avec des gens qu'on va revoir, qu'on va inscrire dans une dynamique d'accompagnement. Pour ce qu'on peut arriver à faire, j'y reviendrai. Et on essaie d'avoir une double articulation, des points de vue théoriques qu'on va apporter aux gens, ça veut dire des cycles de conférences, ça veut dire faire venir la recherche, faire les castings, comme disait je ne sais pas qui hier. Oui, on va essayer de faire venir les meilleurs pour faire entendre des points de vue, mais on sait que ça suffit pas, parce qu'il faut accompagner les gens, et qu'il faut en particulier non seulement faire voir différents points de vue de la recherche, les assumer devant les stagiaires, devant les enseignants, comme voilà un point de vue, voilà pas la recherche, voilà un point de vue, un regard. Et s'il vous plaît, on va vous demander d'essayer de mettre ça en résonance avec l'accompagnement que vous pouvez avoir.
Ça veut dire seulement sur les castings, c'est les batteurs d'estrade. Hein. Il faut bien comprendre que ce n'est pas les meilleurs. C'est les meilleurs sur des estrades devant 200 personnes. Ça, tout, c'est autre chose que
donc,
les si meilleurs.
Donc Sylvie Seb, par exemple, fait partie du casting retenu pour cette année, comme elle est là. Voilà. Donc, je vais essayer de modéliser ça comme ça. Ça vaut ce que ça vaut. C'est un travail que j'avais fait dans le cadre du travail que j'ai mené, comme d'autres ici, dans le cadre du DESS Ingénierie du Conseil Pédagogique avec Fayol, qui, à mon avis, était un modèle inégalé de ce qu'il faudrait que l'institution apporte à l'ensemble des conseillers pédagogiques sur comment on s'acculture à partir de sa culture de métier. Donc je tente le modèle en 5 points. Quand on fait de la formation, il faut partir d'un vrai sujet de difficulté et l'annoncer comme tel. Avoir des outils, donc je dis 5 points très vite, lire le réel, les évaluations, les décortiquages, les séquences vidéo, faire connaître le prescrit, les programmes, etc., parce qu'on a une représentation des programmes qui ne sont pas les programmes, partager progressivement les références, croiser les lectures du monde, se dire qu'il y a des pluralités de modèles explicatifs, qu'il n'y a pas un modèle explicatif de la recherche, mais différents systèmes qui contribuent à... Oser les outils, je reviens pas, on n'a pas coordonné avec Sylvie, mais c'est je m'inscris vrai. Pleinement dans tout ce qu'elle a dit. Et ce que vous voyez qui est peut-être ou pas qui est en pointillé, le plus dur, accompagner dans la durée, prendre le temps de la confiance, tester, mettre en commun, faire des retours, etc. Donc, voilà ce qu'on entend la première fois qu'on rencontre des enseignants de cycle 2 qui nous parlent de... Ben vous, quand vous faites de la lecture et de l'écriture avec vos gamins, dites-nous un peu les problèmes que ça vous pose. Alors évidemment, vous voyez le catalogue. Et ce catalogue, je le mets là à dessin, bien sûr, vous n'avez pas forcément le temps de tout lire. Voilà tout ce qu'on recueille. Donc le modèle de formation, 4 fois 2 jours, inscrit sur l'année scolaire, des enseignants d'une circonscription, volontaires, à partir du moment où on dit, voilà, on prendra les gens qui sont au moins 2 par école, pour venir, donc 2 par école maternelle ou élémentaire, mais 2 sur le cycle 2. Je précise que ce que je raconte là, on l'a testé sur environ une dizaine de stages, et donc c'est pas l'observation d'un stage, c'est ce que je vous raconte, c'est l'observation de ce qu'on a pu nous regarder, de ce que disaient les maîtres de ces formations, avec une expérience maintenant de 3 ans sur ce type de modèle. Donc 4 fois 2 jours, ou 5 fois 2 jours, ou 6 fois 2 jours, en fonction de ce qu'on arrive à négocier avec les inspecteurs, et des formateurs qui vont articuler le travail qu'ils mènent avec la circo. C'est-à-dire l'engagement, c'est la circo, elle est présente, l'inspecteur s'il peut, les conseillers de toute façon. Les conseillers sont là le jour de la formation avec les stagiaires, on leur demande rien, on leur demande pas de piloter la formation, on co-élabore avec eux le modèle. Par contre, on va leur demander d'aller travailler avec les classes dans les intercessions, pour essayer de comprendre ce qu'ils jouent. Je reviendrai sur la suite. Donc on voit bien dans ce listing invraisemblable qu'il y a des champs théoriques de référence qui sont multiples. La psycho de l'apprentissage, les problématiques de l'apprentissage de la lecture spécifique, en passant par les outils, la différenciation, l'activité du maître, les aides extérieures, le sentiment de compétence, le sentiment de pouvoir faire ou pas, le sentiment de pouvoir agir ou pas. Et j'insiste, ce sentiment de pouvoir agir dans l'interne de la classe, ça me semble être un des leviers qui sont essentiels. Parce que on voit trop d'enseignants qui, aujourd'hui, devant l'immensité de ce qu'on leur a dit de faire, qu'ils ont essayé, etc., disent « bon, on ne sait plus où on en est ». La légitimité du formateur là-dessus, elle va s'instaurer comment? Les formateurs, ils sont multiples, mais ils ont des histoires multiples. Ils vont instaurer leur légitimité parce que le stagiaire va comprendre qu'il est en capacité de prendre en compte ses difficultés et ses préoccupations. Truisme, je sais, mais je le redis. Donc, très clairement, dans ce qu'il énonce là, le stagiaire va dire, le formateur là, est-ce qu'il va être capable d'être du côté uniquement de la prescription, c'est la dernière machin qu'on nous a dit de dire, ou est-ce qu'il peut comprendre nos difficultés?
Et y répondre. Ou nous aider à y répondre.
Et donc on va essayer de tenter une mise en ordre de ça. Je répète, et j'ose le dire, sans chercher à distribuer les bons points. L'éducabilité cognitive, je la fais mienne, le formateur la fait sienne, au niveau de chacun de ses stagiaires. Et il me semble qu'une des modalités d'évaluation de l'action du formateur, c'est est-ce que jusqu'au bout de la formation, on pourra dire qu'il n'y a aucun stagiaire qui pense que le formateur, il est du côté d'un tel par rapport à un tel, dans le groupe. Ça paraît bête. C'est un exercice difficile pour les formateurs. Et on a beaucoup de formateurs pour qui c'est un vrai problème. C'est-à-dire, je viens d'un métier, j'ai été enseignant, j'ai des a priori didactiques, j'ai des a priori sur ce qu'il faut faire en classe, j'ai des a priori sur mes backgrounds théoriques. Et il faut que je sache m'en abstraire quand je fais acte de formation. J'ose dire quelque chose qui, voilà, enfin,
pas forcément
est soumis au débat, évidemment. Je suis désolé, je suis obligé de travailler avec deux machines en même temps parce que j'avais pas les notes imprimées. Ouais, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, par rapport à cette liste-là, voilà ce qu'on va essayer de faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on demande de faire aux formateurs et qui se passe plutôt bien. On va essayer de leur dire, voilà. On va mettre en ordre. Et le formateur, son intelligence, ça va être de choisir des objets qui, là-dedans, vont s'articuler sur plusieurs points de vue. Et on n'avait pas articulé avec Sylvie, je m'excuse de la connivence qui va apparaître. On va dire aux enseignants, voilà, on va travailler sur la consigne, on va travailler sur développer l'attention, on va travailler sur apprendre à copier, et on va travailler sur découvrir un texte. Alors, c'est des choix qui ont été faits par formateurs que j'ai extraits là, parce que symboliquement, hein, etc. C'est pas,
par exemple.
C'est pas le modèle.
Par exemple.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, effectivement, on va être à la fois dans l'activité du maître, la consigne, l'activité du maître, qu'est-ce qu'elle est? Développer l'attention sera plutôt de l'attitude de l'élève face aux apprentissages. Dans copier, c'est qu'est-ce que je m'autorise à faire comme enseignement sur les habiletés?
On n'y retourne pas.
On n'y revient pas. Et puis découvrir un texte, là on serait sur cette idée, comment je travaille sur l'aide à mettre en place avec un certain nombre de gamins pour leur permettre de rentrer dans l'écrit. Et donc, on va essayer de modéliser un certain nombre de choses. D'abord, mutualiser ce qu'on sait. J'insiste, mutualiser ce qu'on sait, ça ne va pas de soi, c'est compliqué à faire, mais c'est une... Voilà. Deuxièmement, le formateur va faire un certain nombre de compléments, en fonction de ce qu'il est comme formateur. Tous les formateurs ne savent pas tout, de la psychosociale, de la psychocognitive, de la sociologie, de l'histoire culturelle des apprentissages, de la didactique du français, etc. Donc le formateur, là-dessus, il va devoir savoir par quel bout commencer. Et puis il va falloir proposer des pistes concrètes, puisque comme on est sur un dispositif d'accompagnement où on va revoir les collègues, la première évaluation que le formateur va avoir de ce qu'il a fait dans la première session, c'est quand ils vont venir à la deuxième session, qu'est-ce qu'ils vont avoir osé faire? Et donc, il va falloir trouver des pistes concrètes. Et donc, si j'essaye de moi modéliser ce que je regarde de l'activité qui se passe au niveau des stagiaires et des formateurs, je dis que ce que je vois, c'est que, en priorité, les stagiaires vont plutôt citer des choses qui sont de l'ordre de la motivation externe. C'est-à-dire l'habillage des tâches, c'est-à-dire les clochettes qu'on met autour de l'activité, il faut changer souvent, etc. La difficulté du formateur, ça va être qu'il va falloir ramener, et Sylvie disait, de qu'est-ce qu'on fait à qu'est-ce qu'on apprend à faire, qu'est-ce qu'on apprend. Le formateur, il doit obliger les stagiaires, et c'est un exercice difficile, à revenir sur l'activité de l'élève, et pas seulement sur l'habillage des tâches, sur la mobilisation intellectuelle de l'élève. Et donc, de revenir sur l'objectif d'apprentissage, la nécessité de l'entraînement, la régularité des tâches, l'organisation, etc. Donc, tout un tas de choses qui, là encore, sont compliquées à faire pour un formateur. Parce qu'il faut agir sur tous les champs.
À tous les niveaux, oui.
Hein, donc, j'illustre hein, maintenant, je suis à plus de la moitié de ce que j'ai préparé. Et puis, dans les pistes concrètes, là encore, je postule, quand je dis « je », c'est mon chef, hein, excusez-moi, que... le formateur doit s'obliger à ne pas faire le tri. C'est-à-dire que les collègues vont faire une liste des choses qu'ils vont essayer pour la prochaine fois, et le formateur ne va rien en dire. Il va dire aux collègues, eh bien écoutez, on verra ce que la prochaine fois vous allez essayer. Alors, est-ce que les collègues vont s'engager ? Je vous donne des exemples d'activités qui ont été essayées par des enseignants entre la session 1 et la session 2. On est sur 4 sessions. Alors, il y a un stagiaire qui dit, alors là encore, j'essaie de vous donner une typologie de choses, c'est pas dans un stage que ça s'est passé comme ça, je vous ai fait un recueil magnifique et beau pour une belle présentation, c'est des fois pas tout à fait aussi simple, évidemment. Il y a certains stagiaires qui vont dire, par exemple, moi, j'ai essayé quelque chose sur comment je vais commencer à raconter un conte à un petit groupe d'enfants dont certains sont en difficulté, et avant de commencer avec eux, je vais leur dire, eh bien, tu sais, dans le conte, il y a 3 personnages, et alors il y a le loup, et à la fin, tu feras attention parce que, etc. Donc, c'est juste ça qu'il a essayé, l'enseignant. C'est un enseignant qui a essayé juste un truc, et qui va raconter aux autres stagiaires ce qu'il a eu l'impression que ça faisait avec ses élèves. Un autre qui va dire, moi, en grande section, j'ai... pour la première fois, pris le temps de raisonner 2 minutes après l'activité de l'art plastique sur ce qu'on avait fait. Alors, nous, on dirait, il a découvert la métacognition, il n'est pas bien malin, c'est pas, etc. Mais voilà la façon dont le stagiaire le vit. Il y en a un qui se dit, j'ai re-questionné les rituels parce que je me suis dit, je fais le regroupement, mais finalement, Dixit, Sylvie, on fait le regroupement, mais ça sert à quoi? Pourquoi on le fait, etc. Donc, elle a réorganisé son moment de langage du matin sur quels objectifs d'apprentissage, etc. Il y en a un qui va dire, je me suis dit, oui, la phrase du jour le matin, mais alors pourquoi faire? Et il va se dire, je me suis dit, là, ça va être un moment d'enseignement explicite de la manière dont on peut orthographier. Travaux de Guilénas, etc. Bien sûr, nous renseigne depuis longtemps sur tout ça, mais lui, il ne connaît pas les travaux de Guilénas. Mais par contre, il va essayer de s'articuler là-dessus. Il y en a un autre qui dit, je me suis dit, comment est-ce que je pouvais modérer mes ardeurs sur les consignes. Et il y en a, par exemple, c'était une des pistes des stagiaires, ils avaient dit, attention, mets-toi en situation, comment tu fais pour ne pas avoir à répéter la consigne? Bon, je vous passe tout ça, vous savez faire. Il y en a un qui dit, moi je me suis intéressé surtout à l'aspect culturel et finalement je me suis engagé dans la production d'un écrit long parce que c'était intéressant, etc. On voit bien, on est sur l'étayage, sur le couple infernal tâche-activité, que vous connaissez par cœur, le rapport entre le projet d'apprentissage et la culture, etc. Et donc je conclue avec, maintenant on se projette un peu dans le temps, on continue à avancer ce travail sur mise en situation, expérience, on fait vivre des choses aux stagiaires, des démarches aussi, on insiste sur faites vivre des démarches d'apprentissage aux stagiaires, ça va les aider à comprendre ce qui se passe dans les apprentissages. Je vous donne un exemple de synthèse de ce qui a été vraiment produit. Donc ce que je vous montre là, vous ne le prenez pas comme un modèle. C'est un exemple de ce que les gens produisent avec leur cerveau et leur gros au bout de 4 fois 2 jours de formation étalée dans une année, étayée avec un certain nombre de conférences. Et on s'éloigne un peu de la lecture-écriture. Et ils disent, on va théoriser notre activité professionnelle, en disant du point de vue du maître, avant la séance, il faut que j'anticipe.
Quoi ?
Il faut que je clarifie le but. Et il faut que j'imagine des situations exploratoires ouvertes qui vont apporter des réponses plurielles. On voit bien qu'on est dans plein de registres différents, là, mais c'est comme ça qu'il le théorise.
Mais c'est ça, gérer l'hétérogénéité des éléments contributifs d'une situation.
Et garder le postulat d'éducabilité cognitive de chacun, j'insiste.
Ça veut dire on peut faire mieux. Tout le monde peut faire mieux. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas obligé de parler des guides. Tout le monde peut faire mieux.
Dans la séance, donc les collègues disent des choses sur l'organisation, comment j'explique avant, comment je reformule les consignes, comment je précise la tâche, le contexte, le but, comment j'allège une tâche complexe, comment je diffère le moment du faire, comment j'empêche les gamins de faire à un moment donné. Vous savez, ces gamins qui se précipitent dans l'activisme, etc. Il y a des gens qui ont pris conscience que simplement empêcher les gamins de faire en disant vous retournez la feuille, vous mettez rien, etc. Alors, tout le monde ici connaît ça, mais voilà des effets de ce que les gens ont dit. Et puis, le célèbre retour métacognitif sur les procédures, la gestion du temps. Tout le monde a dit ici que le temps, c'est la ressource la plus rare dont l'enseignant dispose. Et puis, l'idée de là encore, théorisation de la part des enseignants, hein. La conception de l'intelligence. Je sais pas, ou rien ne se passe si je me mets pas au boulot, moi, en tant qu'élève. C'est ça qu'ils disent. Travailler ces conceptions-là avec les élèves. Entraîner les habiletés de base, le calcul mental, la copie. Non, c'est pas caca. Oui, on peut apprendre à copier. Et bon, le modèle du lapin et du canari, vous le rappelle. Et puis, plus j'ai de temps, plus je suis en sécurité dans mon activité, là encore, je ne reprends pas ce que dit Sylvie, plus j'ai le temps pour me décentrer, pour regarder ce que les gamins font, etc. Deux petits points encore sur l'élève. Voilà ce qu'il faut essayer de faire avec l'élève. Et les parents, on en a déjà parlé. Alors, les collègues n'ont pas des pistes forcément bien instrumentées, là. Hein. Mais bon, voilà. Conclusion. Pardon.
Dans les parents, tu n'as pas mis argumenter. Ça, c'est très bien. Parce que dès qu'on entre dans une consigne de transmission théorique vers les parents, c'est là qu'on risque de produire toutes les difficultés réciproques. Aider l'enfant et rendre visible ce qui se passe en classe, c'est-à-dire raconter, ça, tout le monde peut le faire.
Par exemple, il y a un collègue qui a dit « la réunion de parents, cette année, je vais la faire différemment. » C'est un collègue. Hein. Il a dit « je vais dire aux parents, vous avez le droit de venir tous les samedis matins de 9 à 10 dans la classe et je vais vous donner un papier. » Ce qui m'étonne, ce qui me rassure, ce qui m'inquiète, ce qui m'intéresse, ce sur quoi je voudrais avoir des compléments. Et il a fait sa réunion de parents en disant, voilà, dites-nous ce qui vous inquiète, ce qui vous rassure, ce sur quoi vous voulez avoir des précisions. Et tous les parents ont dit, on est complètement étonnés de voir comment les gamins ils bossent, parce que nous, à la maison, c'est l'enfer, et vous, ils n'arrêtent pas de travailler sans arrêt dans la classe, comment ça se fait? Une autre anecdote, une collègue de maternelle qui a dit au formateur, ben vous savez, la maman d'Aïssa, elle est venue à midi, et puis elle m'a dit, ma fille, elle m'a dit qu'on était à l'école pour apprendre à se servir de sa tête. Et donc, la collègue racontant au formateur le désarroi de cette maman, le désarroi et le trouble installé, ben non, on n'est pas à l'école juste pour apprendre à être docile. Mais voilà. Donc ça voulait dire que le travail d'explicitation que la collègue avait fait avec ses gamins de maternelle, de grande section, avait pesé sur la représentation de l'élève qui elle-même l'avait verbalisé à la maman et la maman l'avait ramené. Bon, le formateur, il est content. Alors, difficulté. Difficulté pour mettre en place ça. Il faut travailler avec les pilotes. Et je pense qu'ici, du point de vue où vous êtes de formateur, de conseiller pédagogique, de prof d'IUFM, etc., ce travail pour vous, il est noir. Il est obscur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pardon à ceux qui siègent ici dans les CA et qui savent tout ça. Mais je veux dire, pour beaucoup de gens, ce travail de pilotage, il est obscur. Deuxièmement, il importe pour faire ça de co-élaborer les formations avec les formateurs. Et là-dessus, vous savez combien c'est difficile entre l'institution éducation nationale, rectorat, IA et les instituts de formation. Parce que bien souvent...
Inégalement selon les lieux, mais difficile.
Bien souvent, moi je pourrais dire, par exemple, à l'intérieur de l'académie, très inégal selon les départements. Des départements où l'organisation, depuis la PEA jusqu'à la T2, l'articulation entre l'IA, les conseillers pédagogiques, l'IUFM, c'est en place. Donc chacun décline le répertoire de compétences, et puis d'autres endroits où c'est très difficile. Et puis dernière chose, je pense que le déficit majeur de notre système, c'est qu'il ne fait rien pour les formateurs. Alors, les formateurs de formation initiale, je n'en sais rien. Pour moi, les formateurs de formation continue, c'est les conseillers pédagogiques. Le système ne fait rien pour les conseillers pédagogiques. Deux, les maîtres d'appli. Les maîtres d'appli sont encore dans des situations où l'institution ne prend pas en charge leur formation, comme les conseillers pédagogiques. Il y a éventuellement des choses qui se font en formation de formateurs IUFM, mais... c'est pas l'institution. Hein. On parlait des trajectoires personnelles des gens. Entre un Roland Guagou qui est instite et qui passe une thèse et qui s'instaure comme professeur d'université et une institution qui dit à ses corps intermédiaires, voilà, j'ai besoin de formateurs qualifiés, donc je vais instituer dans le système des cursus pour que le CAFIPEF devienne quelque chose et puis que les gens puissent parler à égalité de dignité, là, je pense qu'on sortirait un peu d'un certain nombre d'oppositions. Si je sors une demi-seconde du premier degré, je vous donne un exemple de commande. Moi, cette année, dans mon académie, il y a 47 établissements qui ont demandé à ce l'établissement du second degré, qui ont demandé à ce qu'on les accompagne sur différenciation, compétences,
collège,
PPRE, socle commun, enseignement par compétences. 47 demandes d'établissement. Vous imaginez bien que ça, quand ça arrive au cahier des charges et qu'on demande qui sait faire ça,
levez le doigt.
En sachant qu'en général, les établissements veulent que ça se passe sur une journée ou deux. Voilà, merci.